Pourquoi je fais du théâtre ?
Le théâtre n'existe pas.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et...
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllab.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tonnerre de Brecht. Bonsoir Léa.
Bonsoir Martin. Le slogan de notre émission pourrait être « Ce soir, le roi est mort, vive le roi » puisque nous entendrons l'entretien d'Enora Boel pour son spectacle « On ne dit pas j'ai crevé » et on reçoit aujourd'hui en studio Gilles Rousseau pour sa création « Il est devenu roi ». Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
On est aussi en compagnie de Gaëlle Lecar, qui est responsable de communication au Triangle et qui nous parlera un peu de la programmation de janvier et de Waterproof.
Bonsoir.
Bonjour.
Vous les attendez toutes et tous chaque semaine avec une grande impatience. Voici les actus théâtrales de la semaine.
Jusqu'au 22 décembre, retrouvez les Chiens de Navarre sur la scène du TNB. Retrouvez-vous pour 1h30 à partager la table du réveillon avant l'heure. La table du réveillon d'une famille comme les autres. Les parents fraîchement retraités, leurs enfants, les conjoints et les conjointes des enfants. Le père et la mère annoncent alors la vente de la maison familiale, c'est l'émeute. La fête prévue vire au cauchemar. Ce spectacle irrévérencieux, dose à la virgule près, comique et tragique, boosté par des comédiens et des comédiennes rompus à l'improvisation et osant montrer d'elles et eux le pire, et donc le meilleur. La représentation corrosive mais galvanisante en dit plus sur l'amour-haine qui obsède les familles que bien des confidences sur les divans des psys. Et on retrouve donc ça jusqu'au 22 décembre.
Non mais ce qui les fait chier, c'est que je suis le dernier baroque de la ville et que dans le quartier rénové, bah, ça fait tâche. Je reçois tout le monde. Je reconnais les pièges. De la mémé qui se roule un joint en terrasse aux policiers en civil qui cherchent Rennes 2 avec un casse-table sur le dos. Le rock à Rennes, ce n'est pas forcément de la musique, c'est surtout des gens et des lieux. Venez passer une journée avec Monsieur Eddy, le dernier patron du dernier baroque de la ville. Ce monologue pour un bistrotier est à retrouver vendredi à 20h30 au bar de l'Overlook. Dernier baroque de Rennes.
La boule à neige, objet de collection presse-papier ni à poussière oublié sur une étagère, la boule à neige est un poncif touristique, un cliché enneigé. Que raconte notre attachement à cet objet ? Est-il seulement nostalgique ? C'est le sujet du spectacle de Mohamed El-Khatib et Patrick Boucheron que vous pourrez retrouver jusqu'au 22 décembre au TNB. Par ce sujet, les deux auteurs s'interrogent sur la culture populaire. Basse culture et haute culture s'observent en chien de faïence. Il en résulte une controverse dont les deux complices et artistes associés au TNB se saisissent avec un sens aiguisé de l'improvisation. L'un pulvérise l'idée d'un théâtre appartenant à une élite, l'autre affirme que l'histoire, loin de faire bande à part, dialogue avec chaque discipline. Cette hybridation de deux intellects et de deux sensibilités entre conférence et performance se donne dans un cadre intimiste pour une écoute totale et c'est donc à retrouver aussi jusqu'au 20 décembre au TNB 22.
Avant de retrouver nos invités venus nous parler du triangle et du spectacle Il est devenu roi, on écoute une petite chanson française bien de chez nous.
Je dirais même plus bien de l'Ouest puisque nous allons écouter Vidéo Club avec le morceau Roi.
Pour toi, tes boucles brunes s'évaporent dans mon âme, dans mon corps.
Je te cherche dans mes songes, je te traque dans mes rêves. À l'aube ou dans l'ombre, rire en veine sur tes lèvres, écorchant les abîmes de mon cœur. Écarlate, tu n'es que le point fixe de mes songes disparates. Aime-moi dans la neige, aime-moi sous le soleil, aime-moi la peau beige dans les fleurs de vermeil. Je vois des gens qui cornuent, je vois des gens qui me sourient. Mais moi je plane dans la rue, dans tes yeux sous la pluie. Et je reste l'esprit de tes lointains souvenirs. Dans mes songes ensevelis, tes larmes, tes rires. Tu es ma femme iconique, tu es mon rubis saphir. Je suis ta rose lyrique, je suis ces gens qui t'admirent.
Dans les fleurs de vermeil. Tes jours durant, finir la nuit, je pars contre ta peau. Je parcours la vie, la fumée.
le soir de ta bouche file s'échappe de jour en jour. Quand j'aurai lieu dans la nuit, je suis seule sous mes vis. Je t'aime quand il pleut, tu es la nymphe de mes voeux. Je t'embrasse dans mes rêves et je t'aime au bout des lèvres. Je déteste le goût mièvre de leur bouche, de leur rêve. Dans la nuit, tu me regardes sous les nuages, je divague. Avec toi, je suis roi, je suis roi. Toi, je suis roi. Toi, je suis roi.
Vous êtes sur Syllabe et comme on reçoit Gilles Rousseau pour son spectacle Il est devenu roi, nous venons d'entendre Roi du groupe nantais Vidéo Club.
Et nous sommes donc en compagnie de Gilles Rousseau pour son spectacle Il est devenu roi. Vous êtes chorégraphe, metteur en scène mais aussi comédien de cette création qui nous raconte une galette des rois qui tourne un peu à la dictature.
Pour commencer, on peut parler d'un élément important du spectacle, le dispositif numérique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi il consiste exactement et nous parler un peu de sa fonction dans la narration ?
Il faut aussi contextualiser, c'est-à-dire que c'est un spectacle jeune public à partir de 3 ans, hein, donc c'est à partir des maternelles, donc les choses sont traitées avec distance quand même. Et le dispositif vidéo, c'est un alignement de 10 écrans, et en fait j'en ai fait un peu ma spécialité, c'est la synchronisation d'une multitude de fichiers vidéo. Et pour des raisons toutes simples, que dans mon local je ne pouvais pas faire le noir, je ne pouvais pas utiliser de vidéoprojecteur, parce qu'il faut le noir. Et du coup j'ai pris l'habitude de travailler sur des écrans, mais ce qui fait ma singularité en fait, parce que tout le monde travaille avec des vidéoprojecteurs, c'est facile, hein, un fichier vidéo, vous faites tout le fond de scène, alors que moi là j'ai 10 écrans vidéo. Dans le spectacle précédent j'en avais 23, qui étaient passés aussi au triangle, toujours en jeune public, et là mais pour moi ces écrans en fait ils créent parfois un ensemble, mais c'est aussi un ensemble d'individualité. C'est-à-dire que c'est des micro-mondes. Et si le vidéoprojecteur propose une seule image, moi je vais en proposer. Chaque écran a son monde. Et dans ce spectacle, les écrans, en tout cas c'était l'intention de départ, pouvaient représenter la diversité des pensées du roi. Et ses contradictions, ça n'a pas été si facile que ça finalement à le réaliser. On le ressent parfois. Et des fois c'est utilisé comme une barre d'image unique, donc il y a un mixte de tout ça quoi. Mais j'aime cette idée que c'est une addition d'individualité, de petits mondes qui fait un monde.
Et du coup au niveau technique ça doit être très
spécifique.
Ouais, spécifique et difficile on va dire entre guillemets à mettre en place, et même pour chaque spectacle. Les techniciens doivent être très sollicités, non ?
Alors, c'est un système que j'ai mis au point, un peu par hasard, au fil des années, en suivant, parce que ça fait une vingtaine d'années que j'avais commencé à rentrer dans la vidéo, et à l'époque où la vidéo, c'était très... Voilà, c'était les caméscopes avec les petites cassettes, en H8, après numérique, et maintenant c'est directement sur des fichiers vidéo. Mais du coup, j'ai suivi toute l'évolution technologique et je me suis posé la question comme ça de synchroniser des fichiers vidéo. Et je ne sais plus la question.
Si c'était difficile à mettre en place.
Et
s'il y avait beaucoup de sollicitations des techniciens pendant les spectacles ?
Non, en fait, au final, c'est assez simple. Mais en fait, c'est avec des outils, des lecteurs de fichiers vidéo qui sont maintenant obsolètes, enfin qui se trouvent plus dans le commerce, et en fait je peux même pas faire de doublons. Et sans doute que c'est techniquement possible de synchroniser 20 fichiers vidéo dans le mapping sur les grandes façades. Il peut y avoir une multitude de fichiers vidéo, mais dans ce cas-là ils ont des logiciels et c'est un monde financièrement qui est sans limite, quoi. Alors moi je suis une toute petite structure fraîchement soutenue, donc voilà, j'ai mis au point une sorte de bricolage qui fonctionne très bien avec sécurité. On va toucher du bois.
Du coup, il y a deux interprètes dans ce spectacle, Nolwenn Le Bévillon, qui est danseuse, et vous, Gilles Rousseau, qui avait plutôt le statut de comédien.
Et, exactement.
Une question que je pose souvent parce que ça m'intrigue beaucoup. Comment est-ce qu'on se met en scène soi-même ?
C'est... Mais... Dans ce travail-là, ce n'est pas le plus ingrat. Le travail le plus ingrat, c'est la vidéo. On se filme à chaque fois qu'on fait un filage, une répétition. On se filme, on se regarde. On peut faire venir des gens de l'extérieur pour avoir un petit regard, mais ça serait trop décevant de ne pas y être, quoi. De ne pas être sur scène. Mais le plus ingrat, c'est la vidéo, parce qu'on peut pas faire, en vidéo, on ne peut pas faire les choses à moitié. Donc si on a une idée, on peut prendre une journée ou deux pour la faire, pour se dire « ah ben ça marche pas ». Alors qu'un comédien, vous lui dites « tiens, tu passes de gauche à droite là, non, fais voir de droite à gauche, ouais, je vais choisir de droite à gauche, voilà, ça prend 10 secondes ». La vidéo, il faut faire le truc, et c'est chronophage, et c'est compliqué. Et ça, c'est ingrat, parce que des fois, vous voudriez faire plein d'essais, c'est trop, quoi.
Et vous dites que vous filmez pendant les répétitions, etc. Quand vous regardez les vidéos et que vous rejouez du coup ce que vous avez vu de manière un peu différente puisque vous vous êtes vu en vidéo, est-ce qu'il n'y a pas une... est-ce que le geste technique ne prend pas la place sur l'instant présent du théâtre, etc. à se dire, bon bah là je vais être dans la représentation, il faut que je fasse ça comme ça, enfin...
Alors, aussi, la spécificité de ce travail, c'est qu'en fait, on a une oreillette et que les fichiers vidéo, ils sont lancés en début de spectacle et qui se déroulent. Et que, en fait, on a une petite oreillette qui nous dit les étapes. Et alors, des fois, on a des espaces un peu free, puis on a un temps pour se recaler. Ou à la fin de la séquence de 3-4 minutes, on va avoir 10 secondes pour se recaler, quoi. Mais c'est ingrat encore mais curieusement la danseuse à Nolwenn a beaucoup moins de top que de timecode que moi.
En même temps c'est votre visage qu'on voit sur les écrans, donc c'est...
Ouais, mais eux ils se déroulent, eux c'est la vidéo, eux ils se déroulent, mais nous on est synchronisés par rapport à ça, c'est-à-dire il y a vraiment des moments où je lève la main, paf, la main elle apparaît à l'écran, hein, donc c'est vraiment synchronisé parfaitement. Ouais. Et par rapport au jeu, ça n'empêche pas quand même de vivre pleinement l'action quand même.
Hein. Okay.
Et c'était pour répondre à la question d'origine.
Et vous en parliez un peu de Nolwenn Le Bévillon. Là. Pourquoi vous avez ajouté de la danse ? Quel rôle elle tient dans le spectacle ?
Parce que j'avais déjà fait le précédent spectacle, L'Arbre à Pixels, était déjà numérique et danse. J'ai un lien particulier avec la danse parce qu'à l'origine, après des études technologiques, j'avais fait une école de danse contemporaine. Mmh. Et même si je m'en suis éloigné, en fait, c'est un peu comme le vélo, ça se perd pas. Cette sensibilité au mouvement, à la danse, au corps, ça se perd pas. Et ça, dans le travail de la vidéo, c'est vraiment intéressant. Ça s'additionne bien, ça se complémente bien.
Et du coup, vous parliez de l'arbre à pixels, c'est l'un de vos précédents spectacles. Il y a déjà des écrans, c'est peut-être celui où il y en a 23 d'ailleurs.
C'est ça.
Quel est l'intérêt pour vous aussi de multiplier les usages d'un dispositif scénique ?
Eh bien, parce qu'en fait, moi je trouve que dans le spectacle et peut-être l'art, le plus difficile c'est la page blanche, c'est du genre vas-y fais-nous rire ou fais-nous pleurer et comme moi ça me perd et plus j'ai un cahier des charges un peu pointu plus ça a deux avantages ça permet de moins se perdre et en plus d'être un peu plus singulier parce que on travaille sur un domaine en fait qu'on peut-être que personne n'a travaillé avant quoi et du coup mais vous remarquerez que je suis passé de 23 à 10, et donc je n'ai pas cherché à complexifier. Et je me demande si le prochain, il n'y aura pas que 4. Et en fait, c'est une sorte de libération aussi.
Et c'est ça, il y a plusieurs versions du spectacle, entre le moment où vous avez commencé à le créer et aujourd'hui. Et quelles ont été l'évolution ? Oula.
En fait, les premiers tests que j'avais faits datent d'il y a assez longtemps, peut-être 7-8 ans, où suite à un petit découragement, je m'étais dit je vais faire un truc que pour moi, que je ne chercherai pas à montrer. Et c'était une chorégraphie de visage dans 5 écrans, dont d'ailleurs j'avais fait un atelier au triangle lors de mon passage pour l'arbre à pixels. Et j'ai commencé avec 5 télés, puis ensuite, donc la première version c'était 5, ensuite j'ai fait 10, ça durait 10 minutes, et j'ai dû faire 4-5 versions en faisant évoluer, en voyant la difficulté de la tâche aussi, la difficulté du concept. Et la leçon, en fait, c'est que la vidéo, en fait, c'est exceptionnellement rare qu'elle se suffise à elle-même. À quel moment, elle se suffit à elle-même ? Pratiquement, il n'y a presque que les mappings devant la mairie, ou des choses comme ça. Et les expos, je ne sais plus comment ça s'appelle, les expos là, sur les peintres qui... qui a eu à Paris, puis il y a...
Ah, c'est l'atelier des Lumières.
Voilà, c'est ça. Voilà. L'atelier des Lumières. Et ben là, elle se suffit à elle-même, mais moi, je trouve qu'autrement, ça vient en appui de quelque chose d'autre, quoi. Okay. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une danseuse, par exemple, parce que ça se complète. Ouais, ça se complète. Je ne sais pas si c'est le bon mot.
Mais du coup, vous utilisez le terme « version ». Pourquoi est-ce que vous parlez de version et pas d'étape de travail ? Enfin, c'est quoi la différence entre...
On m'a déjà... Ça doit être ma version de ce mot, version. Mais parce qu'à chaque fois, on se dit qu'on va faire quelque chose. On n'est pas là à se dire qu'on va en faire 4 après. On ne le sait pas encore. Donc on va au bout de quelque chose. Donc pour moi, c'est une version. Et puis après... On continue à... Mais sur le moment, on ne sait pas que c'est une étape de travail.
Ouais.
Voilà.
Du coup, ce spectacle, c'est un spectacle plutôt familial, assez court. Vous l'avez dit, c'est ouvert à partir de 3 ans. Comment est-ce que vous pensez l'adresse au public dans vos créations ?
Alors surtout, je voulais refaire à partir de 3 ans. C'est-à-dire, vraiment, c'est les maternelles, et c'est vraiment très petit. Mais je ne peux m'empêcher de me dire que ces enfants vont être accompagnés d'adultes. Idéalement, sauf pour les scolaires. Mais enfin, il y a les maîtresses aussi pour les scolaires. Et j'aime bien aussi leur en donner à voir aussi. Et donc, c'est pour ça que c'est vraiment un spectacle, pour moi, familial, même si normalement, un spectacle est construit vraiment pour des âges très, très précisément. Mais moi, je peux pas m'empêcher. Je sais que les enfants vont pas comprendre, mais c'est volontaire. C'est pendant 30 secondes, ils vont voir un truc qui bouge. Ils vont pas comprendre, mais l'adulte, lui... Et là, c'est le premier spectacle aussi là, dans lequel il y a du texte. Pas beaucoup, il y a 5 minutes. Et ça, c'est aussi nouveau pour moi. Et du coup, là, c'était la... S'il y a un langage chorégraphique, il y a aussi du texte et il y a la même chose sur le texte. Il y a un moment, je parle de choses, je parle de bonne conscience. Bon, ben, un enfant de maternelle ne va pas comprendre, je pense. Mais l'adulte qui accompagne, et voilà. Mm-hmm. Et je pense que les deux passent un bon moment.
Oui, c'est ça. Quand vous montez le spectacle, vous pensez à tout le monde, pas forcément à un public spécifique.
Ouais. Enfin, quand même par le format. Le format, il est fait pour à partir de 3 ans. Donc je sais ce que je fais. Je fais les choses en conscience. À la fois, je peux me tromper. Peut-être que ça va être comme le spectacle est jeune. On a peu d'expérience encore devant le jeune public puisque la création était en octobre. Donc on découvre encore.
Il y aura certainement d'autres versions qui vont évoluer.
Non.
Ah d'accord.
Ah non, parce qu'une fois qu'on a été programmé, ça là c'est.
On peut plus le faire évoluer.
On ne le dit pas.
Ah ouais. Okay. Et bah pour terminer, un des éléments mis à jour par le dossier de création, c'est la possibilité de réaliser des ateliers pédagogiques autour du spectacle. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots?
Ça, c'est avec plaisir, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Pendant le premier confinement, j'ai construit un deuxième arbre, donc pas celui qui est venu au triangle il y a 3 ans. Un arbre à écran 16/9, plus récent, actuel. Du coup, il n'y avait que 13 écrans dans celui-là au lieu de 17. Mais là, celui-là, il est destiné à mettre des visages dedans. Et du coup, je fais un atelier. J'ai fait ça donc, avec le Covid. J'ai créé pendant le premier confinement, donc j'ai pas eu beaucoup de possibilités. Mais je l'ai fait à l'Hermine de Sarzeau, un théâtre qui est conventionné dans Souci. Et c'est un atelier de chorégraphie de visage, ça dure 3 minutes, je filme les gens un par un suivant une maquette qu'on a fait évoluer ensemble en atelier. Et il y a un travail esthétique, mais c'est un one shot, c'est-à-dire que je filme, c'était un samedi après-midi, je monte le soir et le dimanche c'est présenté. Donc il n'y a pas possibilité de retourner, donc il peut y avoir des imperfections, mais voilà, c'est des imperfections de l'atelier. Et ça dure 3 minutes, il y a une musique et c'est... j'aimerais le faire plus, c'est vraiment beau. Et c'est des gens ordinaires, c'est pas des gens du spectacle. Hein, donc mon intention, c'est de le faire avec des enfants à partir de 7 ans, et puis avec des adultes. Donc là, il y avait un mélange d'enfants, d'adultes, et sur les visages qui sont cadrés, serrés. Il y a des moments qui sont ralentis, et tout ça, c'est en one shot. C'est risqué un peu, ça fait un peu peur.
C'est une matière que vous pourriez utiliser pour de futures créations, au-delà de la dimension légale de est-ce qu'on peut utiliser le visage de quelqu'un, je veux dire.
Oui. En fait, c'est le travail que je fais déjà dans le. Il est devenu roi puisque c'est mon visage, c'est que mon visage. Donc c'est une sous-produit de. Mais j'aime. Ce travail de synchronisation de fichiers vidéo, c'est vraiment... J'ai envie de continuer là-dessus parce que c'est super pointu, niche. Et j'aime aller comme ça dans des territoires inconnus où personne n'a été avant. C'est pas facile, des fois. On peut se tromper, mais ça fait vraiment... Quand on trouve quelque chose d'intéressant, c'est vraiment intéressant, quoi, je trouve.
Et on est à la limite aussi de la performance, puisque vous faites un cahier des charges très précis qui peut s'assimiler un peu à un protocole aussi, j'ai l'impression. Voilà.
Ouais.
Je vais juste vous dire ça.
Ah ouais, c'est hyper timé. Hein. C'est-à-dire que quand vous filmez les gens un par un et que vous réunissez les fichiers, si ce n'est pas bien fait, bah, ils ne vont pas, Ils tournent la tête tous comme ça, droite-gauche. L'idée, c'est d'éviter les grimaces parce que ça n'a pas trop d'intérêt, mais puis c'est facile. Mais c'est plutôt une chorégraphie de 13 visages qui bougent en même temps. Ça fait, c'est un cahier des charges aussi qui est très... On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est ça qui est difficile. Et il faut de l'expérience. Et puis, ben voilà, faut avancer. Quoi.
Bah, merci, Gilles Rousseau. Je te laisse, Léa, avec Gaëlle.
Oui, Gaëlle Lecart, qui est du coup responsable communication au Triangle. Merci. Et on profite de votre présence, Gaëlle, pour peut-être parler aussi un peu de la programmation de janvier et du festival Waterproof.
C'est ça, ce fameux festival Waterproof, plongé dans la danse. En fait, c'est un festival donc, qui se passera cette année, enfin en 2022, du 26 janvier au 6 février, donc sur 2 semaines. C'est un festival qui a été initié en 2020, donc qui a eu une vraie forme tout public où on a pu accueillir du monde et qui se déroulait sur 3 semaines sur la première édition. Et la seconde forme de 2021, donc qui a été un petit peu biaisée et qui a été dédiée exclusivement aux professionnels, mais qui a eu lieu quand même pour montrer la création. C'est un festival qui est initié par le Centre chorégraphique national de Bretagne et le Triangle. Et un gros travail en partenariat. Donc, dans ce festival, en fait, il y a 19 partenaires culturels qui programment. Il y a beaucoup de partenaires qui sont plutôt liés à la danse. On a aussi des grosses maisons, l'Opéra, le TNB. On a aussi des partenaires qui sont liés à la musique, comme les transmusicales. On a des plus petites structures qui n'ont pas forcément de lieu, comme Danse à tous les étages. Donc c'est vraiment des conversations hyper intéressantes avec des compétences et des missions différentes aussi, donc qui se complètent. C'est un beau travail de coordination aussi, le nombre de partenaires. Et donc ce festival-là qui commence le 26 janvier, ça commence par un rendez-vous à 6h30 du matin. Parce qu'on s'est dit, pourquoi ce serait tout le temps en soirée? Pourquoi on n'irait pas un peu faire la fête avant d'aller travailler ou avant d'aller en cours, par exemple? Donc ça commence à 6h30, ce sera mené par le collectif S. C'est un collectif qui nous vient de Lyon et qu'on adore, qui est assez déjanté. La proposition reste assez secrète pour le moment, mais ce que je peux d'ores et déjà dire, c'est qu'il y aura de la danse, un bar à paillettes et que le petit déjeuner est inclus dans le tarif de 6€ de l'entrée. Et là, le teasing est fait.
On aura un mot pour aller à la fac après avec des paillettes.
Il faudra se débrouiller avec les professeurs ou je vais en parler en réunion.
À 6h30, ça peut être une after aussi.
Ouais. Ah oui, bah après,
c'est ce que je voulais dire.
Un mercredi, oui, pourquoi pas, le mardi soir.
On n'a pas tous tes 6 semaines, Martin.
Le mardi est le nouveau jeudi.
Enfin, ouais, mardi, c'est le nouveau jeudi. Donc on en saura plus bientôt sur Waterproof, mais le programme est déjà disponible.
Le programme est en ligne sur le site festival-waterproof.fr, les billets sont déjà en vente. Il y a à peu près une cinquantaine de propositions, 24 spectacles qui se passent sur 15 lieux différents. Donc voilà, il y a vraiment à piocher, il y a des artistes qui sont vraiment nouveaux émergents, il y a des artistes qui sont beaucoup plus connu et arrêté maintenant. Donc voilà, il y a vraiment de tout et dédié à la création chorégraphique. Quoi.
Et en janvier, avant Waterproof
Nous, on travaille sur Waterproof.
Ah oui, d'accord.
On se retrouve alors fin janvier. On l'a déjà fait d'avoir une programmation de un ou deux spectacles entre le Nouvel An finalement et le festival. Et puis c'est assez costaud à mener. Donc on se concentre vraiment sur le festival. Et là, ça ne va pas être de trop, je pense, d'avoir 3 semaines. Vu que les gens reviennent dans les salles, mais c'est pas si simple que ça. Donc ça va pas être de trop au niveau d'aller rencontrer les publics, d'aller dans les groupes de gens qui font de la danse, des choses comme ça. Et puis après, nous, notre saison reprend fin février et la billetterie ouvrira début février pour le reste de la saison.
Un mois pour préparer, un mois pour se reposer. Et après on repart.
Voilà. Se reposer, c'est un bien grand mot, mais ouais, on va dire ça comme ça.
Eh ben, merci à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. Et on retrouve votre spectacle, Gilles Rousseau, demain à 14h30 et à 19h au Triangle.
Et sans plus attendre, redécouvrons dans son intégralité l'entretien d'Enora Boel, mené par Martin en juin dernier pour son spectacle « On ne dit pas, j'ai crevé ».
Enora Boel, bonjour. Merci de me recevoir chez vous au Théâtre de Poche à Aider pour votre nouvelle création « On ne dit pas, j'ai crevé ». Dans un article de théâtre, avec un S, entre parenthèses, il est écrit que depuis Moi Canard, une thématique globale se détache des créations, qui est la construction de l'identité. Est-ce que c'est une volonté de votre part de travailler là-dessus ou c'est venu un peu par hasard ?
Non, c'est vraiment une volonté en fait, parce que je suis partie c'est à partir de Moi Canard, donc qui est une réécriture du conte du vilain petit canard. par Ramona Badescu, une autrice de littérature jeunesse à qui j'avais passé commande pour ce texte. Et vraiment, Le vilain petit canard, c'est ça comme histoire, en fait. C'est, beaucoup le voient comme accepter la différence de l'autre, mais moi, je le vois plutôt comme revendiquer sa différence et vraiment s'accepter tel que l'on est vraiment et chercher à trouver les gens avec qui on est bien pour vivre pleinement sa vie. Et Ramona utilise une expression que je réutilise souvent, c'est trouver le courage d'être soi. Et dans Le vilain petit canard, c'est vraiment ça dont il est question. Et après, dans le deuxième spectacle, j'ai écrit une chanson pour MacGyver. Ça parlait d'adolescence, donc par le prisme de mon adolescence. Mais là, c'est aussi trouver le courage d'être soi, parce que quand on est adolescent, on a à la fois très fort envie de ressembler aux autres, et en même temps très fort envie de s'affirmer en tant qu'individu unique. Et on ne dit pas « j'ai crevé », c'est aussi trouver le courage de vivre en acceptant sa propre mort, en fait, et en la regardant en face, et ce qui, il me semble, permet de mieux vivre.
Il y a l'évocation aussi pendant le spectacle « on ne dit pas « j'ai crevé » de toute la vie du personnage ou de vous, du coup. Vous dites que vous êtes plusieurs personnes dans une vie, quoi.
Bah si, c'est ça, la réplique, c'est... Et tu étais quoi ? Une personne ou même plusieurs personnes ? Et effectivement, après, je décris, au début, j'étais une enfant, le monde était complètement fou. C'était un immense terrain de jeu. Après, j'étais une adolescente, c'était plus compliqué. Puis une jeune adulte avec des rêves et des envies. Puis encore une adulte avec toujours des rêves et des envies. Chaque minute qui passait, finalement, j'étais quelqu'un de différent avec des morceaux de la précédente dedans. Mais bah, parce que c'est vrai, il me semble qu'on a l'impression de vouloir être quelqu'un et de fixer une identité, mais les rencontres, les expériences de la vie font qu'on est plusieurs personnes dans une même vie, mais que ces totalités de personnes font ce qu'on est vraiment. Et qu'on n'oublie pas, enfin, moi, par rapport à l'enfance, par exemple, j'oublie pas l'enfant que j'ai été, elle m'accompagne encore très fortement, et je pense que c'est hyper important de garder ça en tête.
En fait, ce qui est important, c'est de faire face à toutes les étapes de la vie, un peu, même la mort, du coup.
Mais oui, ouais, surtout la mort. Moi, je me rends compte que mon expérience avec la mort m'aide à vraiment à vivre. Enfin, je sais pas, c'est une forme de résilience, je pense, et c'est une forme de d'accepter un peu toutes les épreuves de la vie comme des forces supplémentaires, finalement. Et c'est toujours en lien avec l'identité, la recherche d'identité, la recherche de qui on est, en fait.
Est-ce que vous pouvez dire deux mots sur la scénographie du spectacle, notamment la présence des lettres FIN qui sont plus ou moins en permanence allumées pour les auditrices et les auditeurs qui n'auraient pas vu le spectacle?
En fait, on a choisi, je dis on parce que j'y ai réfléchi avec l'auteur du spectacle qui est Robin Lescouette. Et donc cette scénographie, au départ, on y a réfléchi un peu ensemble. Après, moi, j'ai continué mon chemin un peu toute seule vis-à-vis de ça. C'était la question de où est-ce que ça se passe, puisqu'en fait, on est le temps du spectacle commence à la mort du personnage principal, enfin du personnage seul en scène, et se termine à la fin de la cérémonie funéraire. Donc il y a différents temps et différents espaces dans le spectacle. Il y a on peut imaginer à l'hôpital, au moment où on annonce la mort, après chez la thanatopractrice, donc qui assure les soins sur le corps, ensuite au funérarium et ensuite dans la salle de cérémonie. Et donc je voulais un espace vide. Moi, j'aime beaucoup les espaces vides. Dans mes précédents spectacles, j'ai vraiment pas de décor du tout. Mais il me semblait que cette... Il y a une table donc en métal un peu inox à roulette qui sert à la fois de table de soins en thanatopraxie ou de table d'hôpital ou alors de table pour poser le cercueil ou de table qui emmène le cercueil on ne sait pas où, soit au cimetière, soit dans l'incinération, voilà, qui s'en va dans l'au-delà. On pourrait imaginer un peu qu'on est dans des limbes entre la vie et la mort, entre cet entre-deux, avant que le corps vraiment s'en va. C'est vrai que c'est presque clinique comme scéno, ça peut être très froid dans les matériaux, parce qu'il y a l'inox de la table, le tapis de sol blanc, et cette enseigne lumineuse, donc avec le mot « fin ». Petite information par rapport au texte, il n'y a à aucun moment le mot « mort ». Mais ça, pourquoi les gens des fois, ne le savent pas forcément, mais en fait, on le nomme à aucun moment parce qu'on a vraiment eu envie de parler de la fin de quelque chose. Et c'est pour ça que ce mot, cette enseigne lumineuse a été pensée. On peut l'avoir de différentes manières. Ça peut être une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On sait qu'on l'a tous au-dessus de nous, hein, cette fin. Elle nous attend toutes et tous. Et en même temps, elle est joyeuse. Enfin, elle est lumineuse. Elle envoie de la lumière, quelque chose de fort quand même. Et esthétiquement aussi, ça donne une forme de couvercle sur cette boîte dans laquelle je suis un peu enfermée, en fait, dans cet entre-deux, entre la vie et la mort, entre la salle et les coulisses. Voilà, il y a ce drap d'or aussi qui est très présent et qui amène aussi de la lumière et de la joie et de la vie, il me semble, du mouvement, en tout cas.
Tu travailles depuis 15 ans avec Robin Lescouette, qui est l'auteur de la pièce, du coup, dont tu es la matière principale, c'est toi qui le dis. Et quand est-ce qu'a commencé le travail d'écriture et comment il s'est passé, du coup ?
Alors moi déjà, je voulais, là pour le coup, je savais vraiment que c'était un spectacle jeune public. Donc tout public, parce que je sais que quand des adultes le voient, l'expérience des adultes avec la mort n'est pas la même du tout qu'avec les enfants, puisqu'on souhaite en tout cas aux enfants de ne pas avoir été trop en contact encore dans leur jeune âge avec ça. Mais on sait que plus le temps avance, plus on est en contact avec des gens qui meurent autour de nous. Moi, j'ai commencé d'abord à faire des ateliers philo en classe avec des élèves pour leur parler de la mort, parce que j'avais besoin de connaître leur rapport à eux, à la mort. Et je me suis rendu compte, donc c'était pas moi qui menais les ateliers, hein, c'était une médiatrice en philosophie. Et moi, j'écoutais et je prenais des notes. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte qu'on n'a pas du tout le même rapport. Eux, ils sont dans quelque chose de beaucoup plus décomplexé. Et nous, adultes, on est dans quelque chose de beaucoup plus tabou. Et je me suis dit, mais en fait, il faut qu'ils sachent en fait ce qui se passe. En fait, il y a besoin de concret. Il y a besoin de, parce que les enfants, on essaye de les épargner parfois. Quand il y a des morts, elle est partie, elle est montée au ciel, et ce truc, elle est partie. En fait, non, elle n'est pas partie parce que partir, on peut revenir. Quand on meurt, on ne revient pas. Moi, j'avais besoin, étant maman également, j'ai toujours parlé des choses de manière très direct et très factuel. Et voilà, on est parti dans cette idée de décrire vraiment au maximum concrètement ce qui se passe. Parce que ça aide aussi, je pense, de savoir ce qui se passe concrètement. Après, ça, rien n'empêche le deuil et la souffrance et le chagrin. Mais en tout cas, voilà. Et puis de parler à la place du mort, parce qu'on sait bien que le plus difficile dans la mort, c'est pas pour les morts, c'est pour les vivants. Donc c'est essayer de mettre un peu du baume pour les vivants, en fait.
Le fait de ne pas du tout citer le mot mort dans le spectacle, est-ce que c'est pas une façon aussi d'être dans le déni de celle-ci ?
Alors on pourrait penser ça, mais c'était pas du tout l'objectif. Ça nous a permis, en tout cas ça a permis à l'auteur de décrire au maximum et de manière la plus précise possible les choses. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que finalement quand tu parles de ça, on met pas le mot, et ben ça peut faire écho à d'autres situations de fin, en fait, une rupture. Des fois, il y a des phrases qui font écho et qui ne parlent pas du tout de la mort, en fait, qui parlent de la fin de quelque chose. Et du coup, des deuils à faire. Et en fait, c'est, dans la vie, il y a plein de mini-deuils. En fait, on fait plein de mini-deuils sur un boulot, sur une histoire amoureuse. Il y a plein de mini-morts. On focalise sur cette idée de mort, mais finalement, on peut l'avoir aussi de manière plus universelle, cette notion de fin, en fait, la fin de quelque chose. Et qui dit fin, qui dit début aussi. Et du coup, voilà, le cycle de la vie, et on reprend courage.
Et y a de nombreux personnages qui viennent au cours du spectacle. Il y a la thanatopractrice, et là où le conseiller funéraire, on ne sait pas. Et du coup, la présence aujourd'hui de tous ces gens lors de la mort de quelqu'une ou quelqu'un, sont-ils de nouveaux rituels, du coup, pour éloigner encore plus la mort ?
Ça a été une vraie question qu'on s'est posée, parce que du coup, moi, quand on a écrit le spectacle, je me suis renseignée beaucoup auprès des conseillers funéraires, en fait, de voir comment ça fonctionne, et le système mortuaire français. Je suis vraiment restée dans quelque chose de très européen, parce que là, l'objectif du spectacle, c'était pas forcément de faire un historique de tous les rituels funéraires du monde, parce qu'il y en aurait eu trop. Il y a beaucoup de civilisations qui vivent les choses de manière beaucoup plus intelligente que nous, ça c'est clair. Après, je me suis aussi posé la question des soins en thanatopraxie, parce qu'il y a, de plus en plus là des cérémonies plus écologiques. Il y a beaucoup de questionnements sur, comment accueillir la mort aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment, comme je disais, encore un énorme tabou là-dessus. On ne veut pas la voir. Et c'est pour ça qu'on fait les soins en thanatopraxie, c'est pour pouvoir voir les morts et ne pas voir la décomposition. Je me suis posé la question, en fait, de parler de ces soins en thanatopraxie, parce que moi-même, encore aujourd'hui, je commence à me dire, mais en fait, est-ce qu'il faut les faire, ces soins en thanatopraxie, parce que c'est plein de produits pas cool qu'on injecte dans le corps, qui polluent après les sols. Enfin, il y a toute une réflexion écologique autour de la mort qui se pose aujourd'hui. J'ai choisi de ne pas traiter ces questions-là parce que ça me faisait rentrer dans des choses... Enfin, je trouve ça beau aussi, tout le rap... Enfin, en fait, la scène de la thanatopractrice était déjà écrite et je l'aime beaucoup, en fait. Je trouve ça hyper beau, ce tête-à-tête, le soin qu'apporte, en tout cas, la thanato à la défunte. Mais c'est vrai qu'on pourrait se poser... Enfin, ça pose énormément de questions, le monde du funéraire. C'est un monde voilà, où il est question de faire beaucoup, beaucoup d'argent, où les cérémonies ne sont pas forcément super bien accompagnées, où il y a quelque chose qui peut être très froid, alors qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. C'est ça que j'avais envie d'injecter, en tout cas, de quelque chose de joyeux et de léger sur la fin, sur la cérémonie. Et c'est vrai que je me retiens un peu de singer plus quand je parle des conseillers funéraires, parce que j'en ai croisé pas mal et franchement, des fois, t'as juste envie de les claquer. Et voilà, donc là, et on m'a dit de les. Parce que mon assistante à la mise en scène a été conseillère funéraire sur une année de sa vie. Et du coup, elle m'a dit ouais, non, sois pas trop sévère non plus. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un juste milieu. Mais il y a vraiment ce truc du soin, en fait. Avant, c'est vrai que c'était dans les maisons qu'on gardait, bah, comme je le dis un peu. Et c'était encore, à l'époque de mon arrière-grand-mère, de ce que je raconte, c'était quand même très cadré. Je veux dire, il y avait un lit refroidissant, il y avait quand même, il y avait eu les soins en thanatopraxie, elle était gardée à la maison. Mais avant, les morts, ils étaient dans la maison et ils se décomposaient dans le lit, familial. Et après, il fallait brûler le matelas parce qu'il était pourri. Mais il y a ce truc du soin, en fait, qui est toujours là et que je trouve assez beau, quand même, malgré tout, à garder en mémoire, quoi. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now.
regarde les pièces qui sont sur le site, on remarque qu'il est toujours indiqué l'âge à partir duquel on peut voir les spectacles, ce qui est plutôt rare, je trouve. Pour la plupart du temps, les artistes n'y pensent pas vraiment. Est-ce que l'accessibilité des spectacles au jeune public est quelque chose d'important pour vous ?
Oui, c'est un peu mon orientation. Et je trouve que c'est intéressant que vous posiez la question dans ce sens-là, parce que dans le spectacle vivant, on a tendance à catégoriser beaucoup les choses, c'est-à-dire qu'il y a les artistes qui font des spectacles jeunes publics et il y a les artistes qui font les spectacles tout public. Or, moi, c'est vrai, quand je fais un spectacle, je le pense pour tous les publics et je me demande à partir de quel âge il peut être visible. Et c'est vrai que du coup, je suis dans un réseau plutôt dit jeune public. Je vais faire beaucoup de séances scolaires, par exemple, donc en journée, mais avec aussi régulièrement des séances tout public. Je pars du principe que j'écris avant tout pour les enfants. Moi, en tant qu'adulte, par exemple, quand je vois des spectacles ou quand je lis des livres avec mes enfants, j'aime bien m'y retrouver aussi. Donc il y a toujours un peu cette vision un peu globale de tous les publics.
Parlons encore un peu de vos précédentes créations, Moi Canard, et j'ai écrit une chanson pour MacGyver. Vous êtes seul en scène à chaque fois, comme dans On ne dit pas j'ai crevé. Pourquoi cet intérêt esthétique d'être seul sur scène ?
En fait, c'est arrivé dans mon parcours de comédienne. À la base, je suis comédienne donc, dans la compagnie Le Joli Collectif, que j'ai co-créé avec Vincent Collet, qui est aussi metteur en scène. On créait des spectacles à plusieurs comédiens, jusqu'au jour où, à un moment, j'ai eu envie de tenter le solo, pour différentes raisons, plutôt personnelles, on va dire. Et en fait, je me suis sentie très bien dans cette autonomie totale. J'ai eu besoin de me recentrer, en tout cas, sur le solo pour un peu, peut-être plus creuser ma pratique et savoir de quoi j'avais vraiment envie, en fait, sur une scène de théâtre. C'était moins clair avant. Et effectivement, depuis que je fais du solo, j'ai trouvé une aisance, une liberté. Alors, je ne vous cache pas que des fois, je me sens très seule, du coup, parce que je porte cette charge mentale, ce stress. Et puis, je ne peux compter que sur moi, en tout cas, même si j'ai une équipe autour de régisseurs, d'assistantes et tout ça. Mais quand même ça peut parfois être lourd, mais en tout cas, c'est encore nécessaire. Après, attention, annonce officielle, dans 3-4 ans, je projette un nouveau projet avec d'autres interprètes. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mis à part le fait que c'est une commande d'écriture à Ramona Badescu, donc l'autrice de Moi Canard.
C'est sur ce scoop que s'achève notre émission. Merci à Enora Boel de nous avoir reçus au Théâtre de Poche à aider pour cette interview. Vous avez pu entendre pendant cet entretien Lazarus de David Bowie.
Merci à Gilles Rousseau d'être venu en studio pour nous parler de son spectacle. Il est devenu roi.
C'est moi.
Que vous pouvez encore voir demain à 14h30 et 19h au Triangle. Et merci à Gaëlle de nous avoir teasé un peu sur Waterproof.
Et nous remercions également Adèle pour la réalisation de cette émission. Toute l'équipe de Tonnerre de Brecht vous souhaite de bonnes vacances.
Et des bonnes fêtes. On se retrouve le 6 janvier pour de nouvelles aventures théâtrales, toujours plus extraordinaires.
D'ici là, portez-vous bien.
Et des bisous.
Des bisous.
C'est Corneille qu'on assassine.
Les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano, les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et
tout le monde se souviendra du nom d'Edmond.
Et tout le monde aura oublié le nôtre.
Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux.
Tonnerre de Brecht, votre rendez-vous théâtral sur Syllabe.